Antoine Compagnon, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de l'apparition de votre livre 1966, Année mirifique, dans lequel vous faites le pari, réussi pour moi en tant que lecteur, de raconter une année. Et de raconter une année à la fois dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle signifie, dans les traces qu'elle a laissées aussi dans la littérature, les arts, la vie intellectuelle. Et vous faites comme ça, au travers d'un certain nombre de 13 chapitres, le portrait d'une année. Alors justement, vous évoquez dans votre préface un fameux portrait d'année qui est celui de l'année 1817, fait par Victor Hugo dans Les Misérables. Et qu'est-ce qui a suscité chez vous cette envie de raconter une année? Est-ce qu'on peut découper comme ça l'histoire en tranches et se dire on va prendre une année et en extraire la moelle?
On peut dire qu'il y a deux motivations pour ce livre. Peut-être qu'il faut d'abord dire que j'avais fait au Collège de France un cours sur l'année 1966 en 2011. Donc c'est assez ancien. Et depuis 2011, mon éditeur chez Gallimard, Pierre Nora, insistait pour que je fasse de ce cours un livre. Il avait très envie de ce livre, parce que pour lui, c'était une année très importante. 65-66, c'est l'année où il est arrivé chez Gallimard. Et chez Gallimard, il a créé ses collections, Bibliothèque des sciences humaines, Bibliothèque des histoires. Il a publié probablement plus d'un millier de livres dans cette maison d'édition entre 1966 et ce livre. C'est le dernier qu'il a produit jusqu'au bout. Il y en a encore un ou deux qui sont de son fait, mais il est mort au mois de juin et le livre était en fabrication, donc jusqu'au bout, c'est son dernier livre. Alors, en 2011, j'avais fait un cours au Collège de France sur cette année 1966. Il y avait une raison personnelle que je n'ai jamais dite dans mon cours et que je dis seulement dans l'épilogue du livre à la fin, qui est que j'étais en train d'écrire un récit qui se situait cette année-là, hein, qui a été publié peu après, qui s'appelle « La classe de Réto » et qui racontait mon année 1965-1966, qui était l'année où j'étais revenu en France après une bonne partie de mon enfance, adolescence aux États-Unis d'Amérique. J'avais besoin à ce moment-là de me renseigner sur cette année-là pour que le livre soit moins personnel. Et au fond, je voulais confirmer ou infirmer l'impression ou l'intuition que j'avais et que c'était une année importante dans la France contemporaine. J'avais cette intuition. Alors, je me demandais si c'était une illusion j'avais 15-16 ans, d'un jeune homme qui arrivait, qui avait quitté la France enfant, qui l'a retrouvé quasi adulte, et qui avait l'impression que c'était un pays où il se passait beaucoup de choses, que c'était un moment très intéressant pour un garçon qui avait cet âge-là. Je me demandais si c'était une illusion. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait ce cours et plus tard ce livre, avec la thèse. S'il y a une thèse, c'est que bon, les gens s'intéressent pas trop à 66 quand on leur dit à 66 année mirifique, ils se demandent pourquoi 66 et pas 68. Par exemple. On dit, pas 68. Ben oui, 68 c'est l'événement, c'est l'explosion, mais me semble-t-il, il y a un certain nombre de grandes inflexions, de grandes tendances qui apparaissent en 1966 et qui sont probablement plus déterminantes sur la longue durée et qui, y compris, figurent parmi les causes des événements de 1968. Donc, 66, pour moi, c'est une année clé. Bon, beaucoup plus tard, on parlera de cette période comme celle des Trente Glorieuses. On ne savait pas à ce moment-là que les Trente Glorieuses allaient s'achever vers 73-74. Mais 66, pour moi, c'est un peu l'acmé des Trente Glorieuses. C'est aussi pour moi le moment entre 62, la fin de la guerre d'Algérie, et 68, justement, l'explosion, 66, c'est un moment où les Français, les Françaises se rendent compte qu'ils sont plus riches qu'ils ne croyaient jusque-là, qui se souvient des années 50, c'était des années pauvres, c'était des années de reconstruction. 66, alors il y a deux courbes que je mets en valeur parce qu'elles sont très importantes. C'est l'année 66 où la productivité s'infléchit et où la natalité s'infléchit. Ça veut dire que c'est l'année où une année importante depuis 1944, depuis la libération, c'est une année où les Français, les Françaises font moins d'enfants et prennent plus de vacances. Hein, parce qu'au fond, ils sont soudain plus riches. Hein. Il y a de grands symptômes de cela. C'est l'année où 50% des foyers ont la télévision. 50% des foyers ont la télévision, ça veut dire que tout le monde la voit. Il y a un bon exemple de cela, c'est la campagne présidentielle de décembre 1965, qui est la première campagne présidentielle, on dit parfois à l'américaine, parce que la télévision y a joué un grand rôle. Et pour François Mitterrand, candidat de gauche, et pour Jean Le Canuet, candidat du centre, qui ont mis le général de Gaulle en ballotage, ce qui était totalement imprévu au mois de septembre 65 et qui est arrivé en décembre comme une grande surprise, d'abord pour le général de Gaulle, qui devait être réélu dans un fauteuil. Et puis, ce n'est pas arrivé. Donc voilà, il y a plein de signes qui nous montrent qu'on est à un moment tournant. Socialement, c'est une année calme. Ce n'est pas une année de grève. Quand on regarde ce qu'on appelle les journées perdues, depuis la libération jusqu'à aujourd'hui, l'année où il y a le moins de jours de grève, c'est 1965, parce qu'on est en attente de ce qu'il se passera. Cette élection, qui est tout de même capitale, première élection du président de la République au suffrage universel direct, cette fois-ci, c'est pas comme en 1848, les femmes votent aussi pour la première fois pour cette élection présidentielle. Et donc, c'est un moment capital. Donc, 65, il y a très peu de grèves. Et 66, c'est une année dans la moyenne basse. Il n'y a pas de grève du secteur privé. Il y a une grève en mai de la SNCF, la RATP, mais ça, c'est habituel. Alors qu'en 67, il y aura les grèves qui vont commencer à préparer 68, la fameuse grève de Rodias Eta, c'est 67. Donc c'est une année calme où on attend de voir ce que fera le régime qui vient d'être confirmé au pouvoir par l'élection présidentielle. Les Français sont en attente.
Alors, justement, vous évoquiez les inflexions de la natalité et vous évoquiez le fait que ça menait, alors, sans téléologie évidemment, mais on pouvait considérer qu'il y avait des signes qui pouvaient être des causes de 68 en 66. Et au cœur de votre livre, il y a effectivement la question de la jeunesse. C'est-à-dire que ce qui caractérise la France de 66, c'est que c'est une France qui, d'un point de vue strictement démographique et de pyramide, est une France jeune, mais qui est une France aussi qui, et ça vous le dites très bien, il y a deux aspects. Il y a à la fois l'apparition d'une culture jeune, mais ça, on va dire, comme dans d'autres pays d'Europe à ce moment-là, et puis vous qui avez passé votre adolescence aux États-Unis, vous avez déjà vu apparaître ça, on va dire, dans le courant des années 50. Et en même temps, c'est une France qui commence à être jusqu'à un certain point un peu embarrassée de sa jeunesse, et entre autres d'un point de vue scolaire et universitaire.
Alors, c'est ce qu'on appelle les boomers qui arrivent à l'âge de 20 ans. Et ça a des résultats qui sont considérables, puisqu'ils font des études. Ils prolongent les études. Bon, n'oublions pas qu'en 66, le taux de bacheliers par génération, la proportion de bacheliers par génération, c'est 12%, 15%. Mais ça suffit à faire exploser l'université. Parce que on est passé très rapidement à ce niveau de, disons, 15% en 66. Et donc, la population étudiante en France augmente de 15% par an. pendant ce milieu des années 60 et on construit des campus universitaires dans toutes les villes universitaires. Il y a des extensions qui sont là pour accueillir ce nouveau public. Ce qui est un phénomène très intéressant parce que on est en période de plein emploi, ce qui veut dire que on n'a pas besoin de faire des études pour trouver un emploi en 1966. Alors aujourd'hui, on nous dit tout le temps, si on n'a pas de diplôme, on est chômeur. Le diplôme est essentiel pour trouver du travail. Mais ce n'est pas le cas au milieu des années 60. On ne peut pas oublier que tous ceux qu'on appelle ingénieurs au milieu des années 60, ce sont encore des gens qui ont été formés sur le tas, qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur. Tout ça est en train de changer à ce moment-là. Donc si les jeunes font des études, c'est parce qu'il y a une demande d'élévation sociale, de reconnaissance, de culture et de savoir. Et ça veut dire aussi, c'est qu'on a assez d'argent pour financer les études de la génération suivante, pour les aider. Donc, cette jeunesse, bon, j'appelle cette couche les nouveaux intellectuels, parce qu'au fond, ils sont bacheliers, ils ont fait des études, donc ils lisent. Ils lisent, ils vont au cinéma, et ils achètent des revues et des journaux. Et la conséquence de cela est en effet que les librairies se développent, parce qu'il y a ce nouveau public. Le cinéma se développe pour ce nouveau public. Beaucoup de revues sont créées entre 64 et 67. La Quinzaine littéraire, le Magazine littéraire, le Monde des livres, tout ça apparaît à ce moment-là. Les hebdomadaires comme le Nouvel Observateur et l'Express jouent un rôle considérable auprès de cette jeunesse. Ce sont des revues très intellectuelles et très culturelles à ce moment-là. Et alors, il y a aussi un problème de la jeunesse parce que à l'élection présidentielle de décembre 1965, la jeunesse, c'est-à-dire la génération 21-35 ans, a voté au second tour en majorité pour François Mitterrand et non pour le général de Gaulle. Et donc le régime, dès janvier 1966, il y a un nouveau gouvernement, Pompidou III, et ce nouveau gouvernement est très soucieux d'avoir une politique de la jeunesse, de reconquérir la jeunesse avant les élections législatives de 1967. Donc ils ont un an et trois mois pour essayer d'avoir une politique de la jeunesse. Parce qu'en 67, il y aura encore plus de jeunes qui seront majeurs, ont voté à 21 ans à ce moment-là. Vous vous en souvenez, les élections, non, vous vous en souvenez pas, vous êtes trop jeune, mais les élections de 1967, la majorité les gagnera une voix près. Donc c'est un peu crucial. Alors cette question de la jeunesse est donc au premier plan en 66. Il y a un ministre de la jeunesse, ce qu'il n'y a plus eu depuis Vichy. On s'était méfié d'une politique de la jeunesse depuis Vichy. Il y avait un secrétariat au sport et à la jeunesse, mais il n'y avait aucun intérêt pour la jeunesse. Enfin, on ne voulait pas penser à la jeunesse. Et puis là, il y a un ministre de la jeunesse qui est François Missoff, homme jeune, bel homme. Il a, je crois, 9 enfants. Donc on dit, s'il a 9 enfants, il saura s'occuper de la jeunesse la reconquérir. Il a très bien réussi, les plus âgés d'entre nous se souviennent de la campagne « Suivez le bœuf » lorsqu'il était ministre du Commerce. Et puis ensuite, surtout, il avait très bien réussi avec les rapatriés. Il est le ministre des rapatriés de 62 à 64. Et c'est le seul ministre dans l'histoire de France qui ait eu dans sa lettre de mission de supprimer son ministère. Il devait supprimer son ministère dès que possible, et le ministère a été supprimé dès l'été 64. N'oublions pas que c'est un ministère qui n'a duré que 2 ans. Au bout de 2 ans, il avait pour mission de faire disparaître le mot « rapatrié ». Et le mot a en effet disparu du vocabulaire français après l'été 64. On a parlé des pieds noirs, comme s'il n'y avait plus de problème. Et en vérité, le rapatriement s'est plutôt bien passé. Donc comme il avait réussi, là, on lui a donné la jeunesse. Et avec la jeunesse, ben, ça a tout de même été un fiasco, puisque ce qui est arrivé, c'est 68. Oui. Ben, il a un peu disparu sur le plan politique de la jeunesse, à cause de la jeunesse, à cause de cet échec. Donc oui, la jeunesse devient importante et la jeunesse consomme. Elle consomme parce qu'elle a un peu d'argent. Elle achète des livres de poche. Donc je m'intéresse aux livres de poche. Elle achète des 45 tours. On est à un moment là aussi de transition entre le yéyé et le baby pop. Donc là aussi, c'est un moment de passage. Et la jeunesse consomme. C'est le transistor, c'est le vélo moteur, c'est le porte-clés dont je parle aussi.
Oui, la grande folie de cette époque-là.
C'est très curieux. En France, il y a eu cette manie de la copoclephilie, comme ça s'appelait, qui a duré un an, l'année 66. Pour moi, elle est assez symbolique de cette fièvre de consommation. Bon, c'est le porte-clés réclame, et il y a une revue de la copoclephilie qui dure un an.
Et qu'on trouve d'ailleurs, on trouve encore dans les brocantes, oui. 60 ans après, on trouve encore de ces porte-clés de 66. Oui. Mais alors, ce que vous montrez très bien aussi, c'est que, d'ailleurs c'est intéressant, parce qu'on a un peu gardé le côté doré, joyeux de ce moment-là. Or, vous montrez que dès ce moment-là, sous deux versants, il y a aussi des impasses qui se dessinent. C'est-à-dire que ces nouveaux intellectuels, ces nouveaux étudiants, ils sont pris très rapidement dans une aliénation. Ils sont pris aussi dans une réforme qui va finalement vous y accorder de l'importance parce qu'elle a des conséquences très longues finalement sur le système supérieur français. Et puis vous montrez aussi, par exemple, qu'on voit très bien au travers des choses de Pérec, qu'il ne suffit pas d'avoir fait des études, de consommer, d'avoir les bonnes lectures et les bons canapés pour être heureux.
Alors j'évoque là deux livres, deux romans que j'aime beaucoup et qui sont importants. Le roman de Le Clésio, qui s'appelle Le procès verbal, qui est le prix Renaudot 1963 ou 4, je me trompe peut-être d'un an, mais je crois que c'est 63. Et en effet, c'est le roman d'un étudiant malade, et qui est en hôpital psychiatrique, un étudiant qui ne sait pas très bien pourquoi il est étudiant. Et aussitôt qu'il y a des étudiants, il y a un malaise étudiant. Et ce qu'on appelle le BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire, est créé dès le milieu des années 50. Et voilà un roman qui est au fond très sensible à ce qu'il est en train de se passer avec ces étudiants qui sont là et qui n'ont pas véritablement de vocation, en l'occurrence à l'enseignement, puisque c'est un étudiant de faculté des lettres, donc il est là. Et puis alors l'autre livre, c'est Les choses de Pérec, prix Renaudot, lui, de 1965. Alors, vous voyez, ce sont des écrivains un peu plus âgés que les baby boomers. Ils sont nés à la veille de la guerre ou pendant la guerre, au début de la guerre, mais ils ont parfaitement été éveillés à ce qu'il était en train de se produire. Et dans Les choses, eh bien, on a justement ces étudiants, ce couple d'étudiants ratés, qui ont quelques certificats de licence, mais pas une licence complète. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire de la coopération en Tunisie, où on les prend dans des postes d'enseignement sans licence complète, puis ils reviennent en France et ils font des sondages, de la publicité, de la sociologie, sur le tas. Hein, ils apprennent sur le tas les méthodes de l'enquête sociologique. Et là aussi, on a... Et puis alors, ce sont des consommateurs de culture. Donc, ils ont les Pléiades dans leur appartement, les livres d'art. On voit bien apparaître là aussi cette grande attention de Pérec à ce phénomène qui est en train de se produire, de cette nouvelle classe intellectuelle. Alors, je cite un article très intéressant de Félix Guattari, qu'on connaîtra beaucoup plus tard comme le compagnon de Gilles Deleuze pour écrire l'Anti-Édipe. Mais lui, c'est un psychiatre du BAPU et il donne des chiffres qui sont, en 66, qui sont extravagants du nombre d'étudiants malheureux. Il va jusqu'à dire que 1 sur 300 devrait être dans une institution psychiatrique. Alors après, quand on se dit, quand on fait cours dans un amphi, hein, 300 personnes, il y en a au moins un ou une qui devrait être interné, c'est ce que dit Guattari. Alors l'autre phénomène que vous évoquez, c'est la réforme de 66, qui est ce qu'on a appelé la réforme Fouché, Christian Fouché, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui est très importante puisqu'on vit toujours sur les bases de cette réforme. Cette réforme a aboli ce qu'on appelait l'année de propédeutique. L'université commençait par une année de sélection, une année généraliste, un peu sur le modèle des classes préparatoires, en sciences et en lettres, et au bout de cette année généraliste, tout le monde ne passait pas en deuxième année où on choisissait sa discipline majeure. Et on a aboli, dans la réforme de 66, on a aboli la propédeutique. Il y avait d'abord une raison de coût. Ça coûtait cher, et il y avait de plus en plus d'étudiants, donc... c'était un petit peu le régime des classes préparatoires, comme je disais. Donc, il fallait faire des économies dès lors qu'il y avait de plus en plus d'étudiants. Puis l'autre raison, c'est que cette classe de propédeutique, elle n'allait pas vers les disciplines nouvelles. Elle était le fond de cette classe de propédeutique, c'était la culture classique, c'était les humanités. Or, les nouvelles couches étudiantes voulaient faire de la sociologie, de la psychologie. On ne savait pas très bien où caser ça, alors que cette propédeutique, c'était du grec et du latin et du français. Et le résultat, c'est qu'à la fin de la propédeutique, le taux de réussite des bacheliers modernes était très, très mauvais. Donc, la propédeutique sélectionnait, mais essentiellement les bacheliers classiques. Donc ça ne convenait plus. Donc la supprimer, c'était au fond laisser ouverte l'université de manière beaucoup plus permissive à tout le monde. C'est le moment où la sélection a été abolie. Le bac a toujours donné droit d'entrer à l'université. On dit que c'est le premier diplôme universitaire, mais la propédeutique sélectionnait. Depuis, il n'y a plus de sélection du tout. Personne n'a été en mesure de la réintroduire. Il y a une réunion interministérielle en 65 où il y a Pompidou, Fouché qui s'apprête à abolir la propédeutique, et le général de Gaulle dit, phrase qui est citée par l'un de ses conseillers, on va dépenser tous ces crédits pour des crétins. Voilà, c'était l'idée qu'il avait. Si on abolit la sélection, on gaspille des crédits pour des crétins. Mais vous voyez, on n'a jamais réussi depuis lors à véritablement orienter au début des études universitaires. Ce qui veut dire que les étudiants choisissent tout de suite leur dominante, leur discipline, et c'est évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Pour moi qui étais longtemps universitaire, j'ai vu les retombées de ça. Et alors l'autre aspect de cette réforme Fouché, c'était la création des IUT. Les IUT sont créés à la rentrée de 1966, et l'idée du régime, c'était d'absorber les nouveaux bacheliers dans les IUT. Et en vérité, aujourd'hui, les places dans les IUT n'ont pas atteint ce que le cinquième plan prévoyait pour 1970. Vous voyez ? Donc les IUT ne sont jamais montées en puissance pour accueillir les nouveaux bacheliers. Le résultat, c'est qu'ils sont allés dans les facultés de sciences, et encore plus de lettres et de sciences humaines, qui incluaient désormais sociologie, psychologie, et étaient ouvertes à ceux qui... Il faut bien penser que, traditionnellement, la faculté des lettres et la faculté des sciences, c'était des facultés professionnelles qui formaient des professeurs. C'était de petites facultés jusque-là, et comme la faculté de droit faisait des magistrats et des avocats, la faculté de médecine faisait des médecins, la faculté de pharmacie des pharmaciens, ben, la faculté des lettres, elle faisait des professeurs de lettres, et la faculté des sciences, elle faisait des professeurs de sciences. Et ça, en 66, c'est complètement transformé.
Alors, justement, après avoir consacré ce moment important à la question de la jeunesse, vous vous intéressez à une autre génération au travers des deux figures que sont Mauriac et Aragon. Donc là, on fait un grand saut générationnel, parce qu'on arrive sur des gens nés à la fin du 19e. Parce que ce que vous montrez, et qu'on n'a pas forcément toujours en tête, c'est à quel point, à ce moment-là, du coup, le spectre de la littérature est dominé par ces grandes figures tutélaires, parfois pour les adorer, souvent pour les haïr, mais qu'elles occupent l'une et l'autre, à leur façon, une place quasiment officielle, que ce soit Mauriac, plutôt, entre guillemets, du côté du pouvoir gaulliste, et Aragon, évidemment, du côté du PCF.
Oui, alors, je veux dire, il y a quatre monstres sacrés dans cette année 65-66. Oui, il y a Mauriac, Le Figaro. Mauriac est très important, mais n'oublions pas que le rôle de Mauriac durant la guerre d'Algérie, à l'Express, mais il a quitté l'Express pour Le Figaro, et à ce moment-là, le bloc-notes de Mauriac a évidemment une importance considérable. Oui, nous n'avons pas mentionné que l'année 66 est très marquée tout le long de l'année par l'affaire Benbarka, dont on parle encore aujourd'hui, puisqu'il y a un livre publié sur cette affaire qui nous apprend encore. L'affaire n'est pas finie. Et bien Benbarka. Enfin, peut-être que le livre La Clope, qui vient d'être publié. Mais Mauriac est très embarqué dans cette affaire Benbarka, qui a l'air de compromettre le régime. Ça le dérange beaucoup. Et puis, bien sûr, il représente Le Figaro et Rome. Et puis, n'oublions pas que 65, c'est la fin de Vatican II. Et aussi un moment très important de ce point de vue. Vatican II se termine en décembre 65. L'index des livres interdits est aboli au printemps 66. Ça aussi, ce sont des moments importants. Et puis alors, Aragon, ben, c'est l'humanité, les lettres françaises. Les lettres françaises, qui est une revue culturelle qui joue un rôle considérable, qui a une nouvelle formule à ce moment-là. Et puis, c'est Moscou. Et comme je disais, c'est la fin de Vatican II, décembre 65. C'est un moment où le Parti communiste français cherche à se renouveler, à faire un aggiornamento, un peu à l'italienne, comme a fait le Parti communiste italien. Le secrétaire général du Parti communiste français, c'est Waldeck Rocher. Et Waldeck Rocher tente de moderniser le Parti communiste. Et au printemps 66, en mars 66, il y a un comité central du Parti communiste qui est capital, qui est le comité central d'Argenteuil, qui est un comité central qui porte sur la culture et qui voudrait donner plus de liberté aux écrivains et aux intellectuels. Et là aussi, on peut dire que c'est un peu un fiasco. Le Parti communiste échouera dans cet aggiornamento parce qu'il est pris dans une très grande querelle. Il faut choisir entre les deux bords des intellectuels. D'un côté, c'est Garaudy, et de l'autre côté, c'est Althusser. Il y a ces deux hérésies pour le Parti communiste, l'hérésie de l'alliance avec les chrétiens, Garaudy. Bon, c'est pas encore le Garaudy
final,
négationniste.
Peut-être beaucoup.
C'est le Garaudy de l'humanisme avec les chrétiens. Le communisme est un humanisme qu'on peut réconcilier avec les chrétiens. Et de l'autre côté, c'est Althusser qui pense que l'humanisme, c'est l'humanisme est mort, l'homme est mort. Et donc, au contraire, c'est la tentation maoïste. C'est le moment de la révolution culturelle chinoise. Et au comité central d'Argenteuil, on va décider de ne pas décider. Et la résolution du comité d'Argenteuil, elle est écrite par Aragon. C'est Aragon qui est à la manœuvre dans cette affaire pour justement essayer de ne pas décider, de ne pas trancher. On reconnaît la patte d'Aragon dans cette résolution de mars 1966. Donc vous voyez, Aragon, Malraux, on fête les 80 ans de... Pardon, Mauriac. Mauriac. On fête les 80 ans de Mauriac. Et c'est une date importante. C'est une célébration nationale des 80 ans de Mauriac. Et au début de 67, on fête les 70 ans d'Aragon. Et c'est une célébration. Le Parti communiste organise toute une célébration. Donc, vous voyez que ce sont des célébrations nationales, aussi bien pour Mauriac et Aragon. Alors, j'ai fait un lapsus, j'ai ajouté Malraux, parce que Malraux, c'est le troisième homme dans cette affaire. Malraux, il est ministre de la Culture, toujours à la droite du général de Gaulle au Conseil des ministres. Et Malraux est évidemment une personnalité considérable. Et Malraux, pour Malraux, c'est une année très dure, l'année 1966. Il va très mal. Il est très absent du ministère. Il est isolé à la Lanterne, au pavillon de la Lanterne, puis à Marly, il ne voit personne. Il boit, il fume, il est drogué par son psychiatre. Et à l'été 65, il est allé en Chine. De Gaulle l'a envoyé en Chine pour 2 mois pour se soigner.
Oui, pour qu'il prenne l'air. Ouais.
Pour qu'il se remette. C'est seulement lorsqu'il est arrivé à Hong Kong qu'il a eu une lettre de mission pour aller en Chine, parce que il n'était pas prévu que ce soit vraiment un voyage officiel. Et donc, il traverse l'année dans un drôle d'état. Il est l'objet de beaucoup de polémiques, sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais en même temps, il est en train d'écrire les Anti-Mémoires, publié en 67. Donc, c'est une très, très grande année pour lui.
Oui, d'un point de vue créatif, elle est douloureuse politiquement et personnellement. Mais littérairement, elle deviendra une année fondamentale dans son travail.
Puisqu'il trouve une nouvelle inspiration. Depuis le musée imaginaire, donc les livres du début des années 50, il n'avait plus véritablement écrit. Et les Anti-Mémoires le mèneront jusqu'à sa mort en 1976. Donc 66-76, ce sont de très grandes années de création pour Malraux. Et ça recommence là. Ça recommence avec ce voyage. Il dit qu'il se remet à écrire en Égypte, à l'escale au pied de la pyramide. Et donc, pendant ces années 66-76, il vit entre le présent. Quand Malraux parle de 1966 dans les Anti-Mémoires, c'est 1966 avant Jésus-Christ. Et il vit toute la période qui va de 1966 avant à 1966 après.
Oui, il y a rarement de sens de la nuance et de la demi-mesure chez Malraux. C'est-à-dire qu'on c'est l'absolu ou rien, sinon c'est pas amusant. Parce que ce que vous dites est très important, c'est que non seulement ces personnes, que ce soit Malraux, Mauriac ou Aragon, comme vous l'avez très bien montré, agissent politiquement, intellectuellement dans la cité, mais ils produisent des œuvres. Vous dites à quel point le bloc-notes est essentiel pour comprendre l'année 66. Et effectivement, 67 paraîtra blanche ou l'oubli d'Aragon, qui est un peu un fil conducteur de votre livre, parce que c'est un livre dans lequel il y a tout 66, mais pas simplement comme avec une capacité de capter l'air du temps d'Aragon, qui est extrêmement fine et qui est finalement probablement beaucoup plus forte que celle de toute une partie de l'écume et de la jeunesse qui, elle, n'a pas su la capter.
Alors, Blanche l'oubli est écrit par Aragon de septembre 65 à septembre 66 et publié en septembre 67. Et c'est d'une certaine manière une chronique de l'année. Donc c'est pour ça que je m'en suis beaucoup servi, parce que Aragon est comme une éponge. Tout ce qui passe dans l'actualité est immédiatement inséré dans le fil du roman. J'ai dit qu'il avait été crucial dans ce comité central de mars 66 d'Argenteuil. Eh bien, pendant 3 mois, il abandonne la rédaction. Il y a un trou au milieu de Blanche ou l'oubli. De mars à juillet, il n'écrit rien. En fait, il est occupé par l'actualité politique et aussi par l'actualité intime, que ça va pas très bien avec Elsa à ce moment-là. Donc, le roman, quand on s'en rend compte, est fracturé par sa vie politique et sa vie intime. Mais pour moi, il est très utile parce que on voit apparaître justement ces jeunes étudiants. Bon, l'intrigue est un peu compliquée, mais le personnage qui est un peu son porte-parole, c'est un professeur de linguistique, parce que la linguistique est à la mode. C'est l'année de la linguistique. Et puis, c'est une jeune fille étudiante à la Sorbonne, en lettres modernes, qui n'a pas tous ses certificats, justement, et qui devient attachée de presse dans une maison d'édition. Donc, on a un parcours parfait de ce moment où les jeunes peuvent trouver du travail, même s'ils ne finissent pas leurs études, parce qu'on est dans un boom économique.
Et en même temps, comme c'est aussi la tentative, et on voit bien que Caragon, pour des raisons vraiment de souhait de comprendre, mais aussi pour raccrocher cette jeunesse, est dans un effort pour essayer de comprendre ce qu'est cette jeunesse, dont il voit bien qu'il y a un mouvement à la fois quantitatif et qualitatif qui l'en éloigne.
Alors, il est très curieux d'être du côté de la jeunesse. Il y a une sorte de jeunisme d'Aragon. Bon, ça sera catastrophique quand il montera sur les barricades en 1968. Alors là, il verra que la coupure est consommée avec les jeunes. Mais en 1966, il s'agit de moderniser les lettres françaises. Donc on accueille dans les lettres françaises Solers et Tel Quel. Il y a une alliance entre Tel Quel et les lettres françaises. Et puis il y a l'alliance entre Aragon et Godard. Aragon qui fait l'éloge de Godard à l'automne 1965 après Pierrot le Fou. En première page des lettres françaises, l'article d'Aragon qui célèbre un jeune frère en Godard. Et d'une certaine manière, c'est lui qui propulse Godard à ce moment-là. Les deux ont à y gagner dans cette alliance, mais c'est le thème du collage. Aragon a toujours été partisan du collage comme technique littéraire, et il retrouve chez Godard un cinéma du collage.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous évoquez Godard. Ça, c'est l'autre versant. Il y a un chapitre passionnant dans lequel il y a deux films sur lesquels vous vous arrêtez, qui sont Masculin-Féminin de Godard. Donc, vous dites que c'est probablement pas le Godard le plus important et qu'il est effectivement esthétiquement moins important que Pierrot le Fou. Mais pour comprendre 66, il est fondamental. Et de l'autre, Au hasard Balthazar de Robert Bresson, qui est un film qu'on peut difficilement qualifier un film de jeuniste, et qui est un film absolument passionnant, qui reste 60 ans après l'un des grands chefs-d'œuvre de Bresson, et vous montrez finalement qu'il y a des liens beaucoup plus forts qu'on peut l'imaginer, à la fois entre ces deux films, ces deux cinéastes, et sur ce que ça dit du moment et de l'époque.
Alors oui, je concentre ce chapitre-là. C'est une très grande année pour le cinéma. Il y a beaucoup d'autres films que j'aurais pu évoquer, mais j'ai concentré sur ces deux-là, Au hasard Balthazar et Masculin-Féminin. Alors, Masculin-Féminin, c'est presque un documentaire sur l'année, parce qu'il est filmé pendant les trois semaines de la campagne électorale de décembre 65, et il sort en mai 66 dans les salles. Et Godard, lui aussi, est un peu plus âgé, comme Le Clésio ou comme Pérec. Il voit ces jeunes et il ne les comprend pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il voit les jeunes? Tout simplement parce que Les Cahiers du cinéma et Salut les copains appartiennent tous deux à Daniel Filipacchi, et c'est donc dans le même bâtiment. Donc, il voit les jeunes de Salut les copains, le baby pop, et il ne comprend pas ces jeunes de 20 ans. Donc, il s'agit de faire un film pour comprendre les jeunes de 20 ans. Et donc, on a Jean-Pierre Léo, qui est le seul acteur professionnel. Les autres, ce sont des amateurs dans le film. Et c'est une enquête. Alors, quel est le problème de 66? On n'en a pas encore parlé, mais il faut en parler. Le mot de l'année, c'est le mot contraception. C'est l'année où la contraception devient un problème national. Le mot a été employé par François Mitterrand à la télévision. Le général de Gaulle a été scandalisé peut-être qu'ils ne le connaissaient pas, ce mot. Et l'idée qu'on pût parler de contraception à une heure de grande écoute à la télévision, pour lui, c'était la France de la bagatelle. Et il refusait de parler de choses de cette nature dans une campagne électorale. Mais vous vous souvenez de la chanson d'Antoine, « Il faut mettre la pilule en vente dans les monoprix », chanson de 1966. Et c'est le mot de l'année. La loi Neuwirth, la proposition de loi est déposée en mai 1966. Donc elle sera votée en 67, mais c'est le mot de l'année. Donc masculin-féminin, c'est un film sur la contraception.
Oui, ça ne parle pas d'autre chose.
D'un bout à l'autre, c'est la question centrale. Puis on retrouve le sondage avec Jean-Pierre Léo interrogeant la chanteuse de Baby Pop. Comme dans le livre de Pérec, c'est la grande époque de ces sondages. On va interroger les gens sur tout ce qu'ils pensent. Et alors vous dites, au hasard Balthazar, ben là, on a l'impression d'avoir un film intemporel, un film pascalien, un film métaphysique, alors que l'autre est un film dans l'écume des jours. Et en même temps, il y a un immense entretien entre Godard et Bresson dans les cahiers du cinéma. Godard interroge Bresson. Et entre eux, il y a une profonde entente. En particulier, il y a une entente pour se comporter sadiquement avec les acteurs. Ce sont deux sadiques. Bresson n'a jamais utilisé que des amateurs.
Des modèles. Il ne faut pas d'acteurs, il faut des modèles, disait-il.
Oui, il les appelle des modèles. Il ne veut pas d'acteurs professionnels parce qu'il veut pouvoir les manipuler. Et dans masculin-féminin, je disais, à part Jean-Pierre Léo, tous les autres sont des... sont nouveaux. Donc on peut l'entretien de Bresson avec Godard, il y a un moment, une phrase terrible que je cite, où Godard dit les acteurs, il faut les traiter comme les nazis traitaient les juifs. Et Bresson ne bronche pas. Donc il y a quelque chose de cette qui nous montre là aussi qu'on n'avait pas. Bon, je consacre le dernier chapitre à la conscience du génocide qui apparaît dans ce moment-là, mais en 66, on pouvait encore dire des choses comme ça sans que l'autre bronche, et c'est imprimé, des choses comme ça. Mais vous voyez l'idée que l'un et l'autre veulent vraiment... C'est un théâtre, c'est un cinéma d'auteur, comme on dit, et les acteurs, ce sont des pantins.
Oui, et on peut aussi considérer que cette cruauté, elle dit aussi une forme de la cruauté de l'époque, parce que au hasard Balthazar a à la fois une dimension intemporelle et en même temps, il y a un certain nombre de figures qui sont vraiment des figures d'époque, qui sont le jeune, le blouson noir,
voilà. La moto... J'insiste sur cela, mais bon, il y a le blouson noir, il y a le transistor, il y a le vélo moteur, il y a tous ces emblèmes de la jeunesse du milieu des années 60. Donc oui, il y a une dimension. Mais j'exagère un peu en disant que c'est important, peut-être.
Oui, mais c'est aussi une façon de dire... Bon, c'est pas l'objet de faire une exégèse du film maintenant, mais c'est aussi, pour Bresson, une façon de dire que le mal métaphysique, il est aussi présent dans l'époque. C'est-à-dire que malgré le transistor, malgré la télévision, ça n'empêche pas la présence du mal.
Oui. Alors évidemment, on n'a pas... J'ai oublié de dire, mais le grand lien entre Bresson et Godard, c'est Anne Wiazemski. Puisque Anne Wiazemski, avec l'âne, c'est... l'actrice principale de Au hasard Balthazar. Bon, c'est la petite fille de Mauriac. Mauriac l'autorise à jouer dans le film, alors que c'est tout de même un peu sulfureux, tout ça. Et Godard, curieux, va assister au tournage et tombe amoureux de cette jeune vierge. Et l'année suivante, il l'épouse. Et elle deviendra l'actrice centrale de La Chinoise. Très peu de temps après, la bascule de ce Godard bourgeois, enfin il a toujours été un bourgeois, au Godard pro-chinois, se passera en quelques mois. Je veux vous rappeler, la révolution culturelle chinoise, c'est l'été 66, qu'on la découvre à Paris. Et donc Anne Wiazemski fait bien la jonction entre Bresson et Godard.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la présence du professeur de linguistique dans Blanche ou l'oubli. L'autre caractéristique de l'époque, c'est la question de la théorie. Alors, vous avez consacré il y a quelques années un livre fameux et important qui s'appelle Le démon de la théorie, sur justement la question de la théorie en littérature. Et ce que vous montrez, c'est que ce moment-là, il est important parce que il est important à deux titres. Il est important parce que s'élaborent effectivement des théories nouvelles qui renouvellent la question de la littérature. Et en même temps, vous montrez que va se jouer là une forme de cristallisation qui va peser longtemps sur la façon dont on va aborder justement la littérature.
Oui, alors on peut parler de cette question de deux points de vue. Premier point de vue, c'est un passage de relais entre deux générations. On a dit Mauriac, Aragon, Malraux, et le quatrième qu'on n'a pas encore cité, c'est Sartre, hein, qui occupe, lui, une place considérable. Il vient d'avoir le prix Nobel, il vient de publier Les Mots. Enfin, il a refusé le prix Nobel, mais ça ne change rien. Et il vient de publier Les Mots. Les Temps modernes est une revue capitale à ce moment-là. Eh bien, en 1966, ils sont évacués par quatre ou cinq personnalités qui ne sont pas tellement plus jeunes, mais qui s'imposent à la jeunesse et qui les remplacent auprès de la jeunesse, et qui sont Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, qui est déjà bien installé, qui est de la même génération que Malraux. C'est Lacan qui publie les écrits en 1966. C'est Barthes, la polémique avec Raymond Picard, nouvelle critique, nouvelle imposture, c'est 1966. Et c'est Michel Foucault qui publie Les mots et les choses au printemps 1966. Donc c'est et j'oublie le cinquième, c'est Althusser qui embarque la jeunesse vers le marxisme, retour à Marx, comme Lacan fait le retour à Freud. Donc c'est ces cinq-là qui deviennent les maîtres de la jeunesse à ce moment 66. Et en effet, pour longtemps, et c'est ce qu'on a appelé le structuralisme, qui n'est peut-être pas une bonne appellation, parce que Saussure, lui, parlait plus volontiers de système que de structure. La langue était un système pour Saussure. C'est Lévi-Strauss qui a appliqué le modèle saussurien à l'ethnologie, déjà depuis un moment, dans les années 50, et même à la fin des années 40, mais pour les autres disciplines, c'est à ce moment-là qu'elle verse dans cette théorie structuraliste. Et alors l'autre point de vue que je crois qu'on peut adopter, c'est de concevoir que ça a donné une méthode pour les étudiants, justement après l'abolition de la propédeutique. La propédeutique était encore très orientée vers les humanités classiques. Ceux qui réussissaient, c'est ceux qui avaient des humanités classiques. Et que trouver comme méthode de base qui convienne à tous les étudiants, quelle que soit leur discipline? Il me semble qu'on peut dire que c'est à ça qu'a servi le structuralisme à ce moment-là. On pouvait adapter ces méthodes, que l'on soit en sociologie, en anthropologie, en psychologie, en lettres, et ça donnait une sorte de méthode de base, un béaba, avec, ça a duré en effet un certain temps. Mais n'oublions pas que le structuralisme, quand il est apparu avec force en 66, il était très fortement associé à la technocratie, très attaqué, notamment du côté du Parti communiste. Là, c'était la structure contre l'histoire. L'homme est mort, disait Foucault, contre Sartre. Et le structuralisme était conçu comme l'idéologie de la technocratie, une sorte d'alliance avec le gaullisme plutôt que l'opposition.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est passionnant, que vous rendez bien dans le livre, c'est à quel point justement par la critique de l'humanisme et par ce que dit le structuralisme. Alors d'abord, il y a un usage du mot structuralisme qui est fait aussi par ses opposants de façon à repousser, à mettre dans un même sac des gens qui les critiquent. Et en même temps, effectivement, l'idée, c'est que Foucault est présenté comme beaucoup plus comme étant, en 66, ça changera évidemment après, un homme du pouvoir, proche du pouvoir, face à, on va dire, l'opposant historique que va être Sartre, par exemple, qui lui sera toujours du côté de son point de vue, du côté de l'humanisme.
Foucault fait partie des commissions mises en place par Christian Fouché pour réformer l'université en 1965-1966. Et il défend l'agrégation, ce que tout le monde ne défend pas à ce moment-là. Il défend le doctorat. Il a des positions qui sont plutôt pour le maintien d'une université plutôt sélective, plutôt dure. Donc oui, pour les adversaires, que ces adversaires soient communistes ou d'autres gauches que la gauche communiste, Foucault, en 66, est du côté du pouvoir gaulliste. Ça changera en 68, puisqu'en 68, ce sera la création de Vincennes. Et Foucault revient de Tunisie. Il est absent en 68, puisqu'il part pendant 2 ans en Tunisie. Et c'est dans ce moment. Et puis, il se réconciliera avec Sartre. Et quelques années plus tard, on les verra ensemble à toutes les manifestations du groupe d'information sur les prisons, du groupe sur les travailleurs immigrés. On les verra toujours à toutes les manifestations, l'un auprès de l'autre. Donc la réconciliation aura lieu dès 1970. Mais à ce moment-là, Foucault est très, très dur pour Sartre. Il dit, on en a fini avec Sartre, on en a fini avec le 19e siècle. C'est cette idée. Sartre est un homme du 19e siècle. C'est l'homme de l'homme.
Alors c'est ce que vous montrez. Vous montrez ça aussi parce que c'est le moment des premiers travaux de Bourdieu. C'est que dans ces questions de théorie et d'opposition, il y a toujours deux choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours le rapport au réel, la façon dont on considère qu'on peut analyser le réel. Et comme vous l'évoquez là, il y a aussi la question du champ qu'on souhaite occuper dans l'espace médiatique, académique, politique, et que les deux sont toujours très liés. C'est-à-dire que on ne peut pas séparer les enjeux de savoir et les enjeux de pouvoir.
Alors, il y a un article très intéressant de Bourdieu, qui est un article fondamental pour lui, qui est publié en octobre 1966, dans Les Temps modernes, dans un numéro sur le structuralisme. Les Temps modernes se sentent obligés de faire un numéro sur le structuralisme. Et dans cet article, qui est fondamental pour la pensée de Bourdieu, c'est là qu'il élabore les notions de champ et d'habitus, les notions capitales de Bourdieu. Et c'est à propos de la polémique entre Barthes et Raymond Picard, où il dit, au fond, entre les deux, les questions de contenu ne sont pas capitales. Ce qui est capital, c'est les questions de champ et de position dans le champ. Entre Barthes et Picard, c'est une lutte pour le pouvoir. Une lutte entre la vieille Sorbonne et la nouvelle critique. Donc, il analyse. C'est très intéressant de penser que Bourdieu a élaboré ces concepts fondamentaux à propos de cette année 1966 et des polémiques auxquelles elles ont pu donner lieu dans l'université.
Alors, justement, pour la fin approchant, il y a une polémique à laquelle vous consacrez un chapitre entier qui est passionnante parce qu'elle n'est pas forcément aujourd'hui celle qui a laissé le plus de traces visibles, qui est, vous l'avez évoqué en passant tout à l'heure, celle du livre Treblinka. Et oui, qui va être un moment décisif dans la question de la réception et du changement de perception et à l'échelle des intellectuels, mais aussi des lecteurs, de ce qu'on va appeler 20 ans après, en 85, avec le film de Lanzmann, La Shoah. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est presque en plus un cas passionnant dans lequel un livre, vous allez nous expliquer, mais qui a créé d'abord un enthousiasme, puis une polémique, va finalement produire des effets malgré son statut. C'est-à-dire, même s'il est remis en cause d'un point de vue historique, il va profondément changer la vision des gens, avec un point aussi qui est qu'il arrive en même temps, puisque cette année est mirifique, que le livre de Hannah Arendt, de Eichmann à Jérusalem, qui arrive en français à ce moment-là.
Voilà. Alors c'est très important, c'est le dernier chapitre. Il porte sur, je dirais, la prise de conscience française de la spécificité du sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début de l'année 66, J'ai le sentiment que les Français ne faisaient pas bien la différence entre camp de déportation et camp d'extermination. Et toute la littérature parlait des camps, des camps. Et puis, successivement, au cours de l'année 66, il y a eu deux affaires. Il y a beaucoup d'affaires dans cette année, mais il y a deux affaires. La première affaire, c'est l'affaire Treblinka. Et la deuxième affaire, c'est le livre d'Anna Arendt, « L'essai sur la banalité du mal », Eichmann, le procès d'Eichmann à Jérusalem. En vérité, il faut d'abord parler d'Anna Arendt parce que l'affaire a déjà eu lieu quand le livre a été publié en anglais, avant la version française. Et la thèse d'Arendt, qui a fait scandale et qui a fait qu'on en a tellement parlé, c'était un, que Eichmann était un fonctionnaire zélé mais non un antisémite farouche, ce qui était faux. Ce que tous les travaux qui ont été réalisés depuis montrent comme une erreur. Et la seconde thèse, c'était d'attribuer un rôle au conseil juif, au Judenrat, dans la Shoah, ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah. Et là aussi, c'est une thèse fausse, la Shoah a été pire là où il n'y avait pas de conseil juif dans l'ancienne Union soviétique. Et ensuite, le deuxième scandale, donc on parle beaucoup de ce livre, et le deuxième scandale, c'est Treblinka, donc ce livre qui est publié au printemps 66, qui lui, va encore plus loin en montrant qu'à part quelques héros comme ceux qui se sont échappés de Treblinka pour témoigner, les Juifs se sont laissés faire. Et Steiner est un jeune juif, tout jeune à ce moment-là, qui a fait son service militaire dans les parachutistes en Algérie, qui a été dans les kibbutz. Donc c'est un dur, c'est un baroudeur. Et il y a cette image d'une sorte de honte juive de ne pas s'être élevé, de ne pas s'être battu, à part quelques-uns, quelques héros, de s'être laissé faire. Ils se sont laissés faire comme des moutons. C'est la phrase emblématique de ce livre. Alors, quand ce livre est publié, il a d'abord un grand succès. Parce qu'on a là, il faut le lire. Je l'ai lu, je l'avais lu quand j'étais jeune, je l'ai relu, bien sûr. Et pour beaucoup de Français, ça a été la découverte de ce qu'était un camp d'extermination. Et puis, après quelques semaines et quelques mois, il y a eu une très forte réaction en considérant que c'était un livre, une sorte de livre de fasciste juif, dans cette vision d'un héroïsme et de mouton, d'un bétail qui s'était laissé faire. Et le livre a donc été très attaqué. Je pense qu'il n'est plus disponible aujourd'hui. Et Pierre Vidal-Naquet a d'abord écrit un article très positif sur ce livre dans Le Monde, et puis après 3 mois a complètement changé de point de vue et considéré que c'était un livre déplorable, détestable. Mais il dira jusqu'à la fin de sa vie que c'est ce livre-là qui l'a fait travailler jusqu'à sa mort sur la question du négationnisme et sur la question des camps. Donc c'est un livre qui est mauvais, certainement, qui a eu un effet considérable, et il me semble qu'à la fin de l'année 66, les Français ne pouvaient plus faire de confusion entre camps de concentration et camps d'extermination. Ils savaient ce qu'était la solution finale. Je me suis aperçu, en regardant la première traduction publiée chez Gallimard du livre d'Anna Arendt, que « solution finale » n'était pas le choix pour traduire la final solution d'Anna Arendt. On avait appelé ça solution définitive. Le mot solution finale n'était pas encore inscrit dans la langue française en 66. C'est ça dont nous pouvons nous rendre compte. Donc c'est un moment déterminant. Et dès 1967, il y aura le premier livre sur la rafle du Veldiv. Très peu après, Le chagrin et la pitié. Qui ne passera pas à la télévision, mais qu'on verra bientôt au cinéma, puis le livre de Paxton. Donc il y a un complet retournement de la conscience française du génocide des Juifs et du rôle du régime et de la police de Vichy dans cette action contre les Juifs.
Mais alors, malheureusement, on ne peut pas, parce que cette année est à ce point mérifique, il y a un certain nombre de sujets qu'on ne peut pas évoquer, la place de Proust, tout un tas d'autres sujets que... Dites-moi.
Il faut évoquer, on n'a pas... Il faut citer Marguerite Duras.
Bien sûr. Parce que vous dites, voilà, c'est ça aussi, c'est la grande année de Duras, les 30 ans de sa disparition par ailleurs ces jours-ci. Donc oui, c'est un moment où elle occupe une place fondamentale.
Parce que les autres, ce sont des hommes. Donc il faut tout de même penser qu'il y a un écrivain qui a le mieux compris cette année. Je devrais dire une écrivaine, mais j'ai encore un peu de mal à employer ce mot. Un écrivain qui se dégage, c'est Marguerite Duras, qui est partout, qui publie Le Vice-Consul, dont les pièces sont jouées dans tous les théâtres parisiens, qui a la télévision. La télévision est très importante. Elle fait elle participe à tous les numéros de ce magazine qui s'appelle Dim Dam Dom, qui est l'un des grands magazines de la télévision. Et c'est avec eux qu'elle fera du cinéma. Juste après, elle se lance dans le cinéma. Donc c'est une très belle année, Marguerite Duras.
Et parce que c'est aussi une autrice qui a su constamment, malgré les caricatures qu'on en a faites, se renouveler, réinventer son écriture, son travail et les différentes formes de sa création.
Absolument. Absolument. Je crois que c'est une année où elle s'épanouit, cette année 66. Et je pense que c'est elle qui a le mieux compris ce qu'elle pouvait faire de cette année pour son œuvre future.
Antoine Compagnon, merci beaucoup pour cette présentation.